Bonsoir à tous. En début d'après-midi, Moscou déclare que l'OIAC est à pied d'œuvre à Douma. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques vient de confirmer l'information. Ces experts ont procédé à des prélèvements là où le 7 avril dernier eurent lieu, selon Paris, Londres et Washington, des bombardements à base de gaz toxiques. La rue arménienne ne veut plus de Serge Sarkissian et l'opposition ne désarme pas. 9e jour de contestation. Des milliers de personnes affluent ce soir au cœur de la capitale Yerevan. Dans un discours télévisé, le président iranien Hassan Rouhani répond aux critiques de ses adversaires conservateurs. Analyse d'un discours offensif avec le chercheur Milad Jokhar. Mais tout d'abord, l'opposition malgache qui n'avait pas l'intention de baisser la garde, eh bien elle tint promesse. Ses partisans ont marché à Antananarive et des violences ont éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants. Un mort, 16 blessés et un contentieux politique qui n'est pas prêt de s'éteindre. L'opposition a compris que les trois dernières lois électorales récemment adoptées la cantonnaient à un réduit politique à quelques mois des législatives et des présidentielles. C'est un reportage à Antananarive de Laure Verneau.
Il est 9h ce matin quand pleuvent les premières bombes lacrymogènes sur les manifestants. La place de l'Indépendance est bouclée par des policiers armés de Kalachnikov et de fusils à pompe. Les manifestants, présents par plusieurs milliers, leur répondent à coups de jets de pierre. Les députés de l'opposition tentent pendant ce temps-là d'accéder à l'hôtel de ville pour se réunir. Christine Razanamassou, députée Mapar, veut coûte que coûte expliquer aux Malgaches pourquoi ces lois électorales sont dangereuses.
Je me trouve ici. Au dos de l'hôtel de ville, pas encore au parvis, je me trouve ici justement pour négocier avec les forces de l'ordre pour pouvoir entrer en pareille circonstance, pareil contexte. Nous avons besoin d'un petit retrait.
Après un peu plus de 3 heures d'affrontement, policiers et gendarmes battent en retraite. Mais le bilan est lourd. À la mi-journée, sur 16 personnes admises à l'hôpital, une a déjà succombé à ses blessures. L'opposition se réunit alors pour décider de la suite des événements. Pour Anich Razafi Manansou, la porte-parole du mouvement et députée Team, la partie est loin d'être terminée.
Je dis bien, nous avons déjà averti, bien avant l'adoption des fameuses lois objets de litige, nous avons averti, mais ils n'ont pas écouté, ils ont fermé leurs yeux. Alors la conséquence maintenant, ils doivent les assumer.
Sans vouloir en révéler plus pour le moment, elle adresse tout de même un message au président de la République, en ce moment à l'étranger pour des raisons inconnues, qu'il y reste pour le bien du pays et le bien des Malgaches.
Laure Verneau à Madagascar. Moscou piaffait d'impatience de voir les experts de l'OIAC à pied d'œuvre. Eh bien, les inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ont pu gagner Douma, là où le 7 avril dernier eurent lieu des bombardements à base de gaz toxiques, selon les secouristes du Croissant-Blanc syrien et nombre de chancelleries occidentales, dont Paris. L'OIAC aurait donc pu enfin travailler grâce à Damas et Moscou. Moscou, Jean-Didier Revoin.
Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé qu'après une semaine d'attente, les experts de l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, avaient entamé ce matin leur travail d'inspection. L'équipe de spécialistes a donc enfin pu se rendre à Douma, sur le site de l'attaque chimique présumée que les Occidentaux imputent au régime syrien, pour y effectuer des prélèvements. Nous attendons que les enquêteurs mènent une enquête la plus impartiale possible qui permettra d'établir toutes les circonstances de ce qui s'est passé à Douma et qu'ils en fassent un rapport objectif, a fait savoir la diplomatie russe. Elle a jugé inadmissible que cette mission d'enquête arrive sur les lieux 11 jours après que Damas en ait fait la demande, et ce, quelles qu'en soient les raisons. Hier, lors d'une interview diffusée par la télévision publique russe, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait expliqué que la zone n'était pas suffisamment sûre pour y envoyer les experts de l'OIAC. Une mission de reconnaissance constituée de troupes russes et de l'ONU ayant même été prise pour cible par les derniers terroristes présents sur place. Et Sergueï Lavrov d'expliquer que l'armée russe a découvert un entrepôt de substances chimiques fabriquées en Allemagne et en Angleterre, ou encore un jerrycan rempli de substances chimiques bien rangé sur le lit d'un appartement, rappelant que les casques blancs financés par Londres, Washington et d'autres ne travaillent que sur les sites où des combattants, dont celui Front al-Nusra, sont actifs. Le chef de la diplomatie russe gardait bon espoir de voir l'enquête se dérouler, forcé de constater ce soir qu'il a été entendu. Reste à savoir maintenant si Moscou et ses partenaires occidentaux se plieront aux conclusions de cette enquête.
Une étape importante vers une future détente des tensions dans la péninsule coréenne, c'est en substance la réaction du Kremlin à l'annonce la nuit dernière par Pyongyang de l'abandon de ses essais nucléaires et de ses tirs de missiles balistiques intercontinentaux. Lors d'un discours transmis par la télévision publique, le président iranien a défendu les libertés civiles et tensé les membres de son gouvernement qui seraient insensibles aux revendications sociales nombreuses et marquées dans bien des localités. Les libertés civiles niées aux yeux de Hassan Rouhani qui a fait référence aux violences de la police des mœurs à l'encontre d'une femme mal voilée, les doléances sociales, celles de ces agriculteurs désespérés à Ispahan en proie à des pénuries d'eau, celles encore de ces habitants s'élevant contre des réformes administratives à Kazrou, dans le sud-ouest iranien. Quelle visée prêter à ces charges destinées aux conservateurs? On sait Hassan Rouhani très critiqué à la suite de ses ouvertures sur l'Occident. Dans quelle posture se trouve le président iranien? Élément de réponse avec Milad Jokar, spécialiste de l'Iran, chercheur associé à l'Institut de prospective et sécurité en Europe.
Rouhani a un rôle très précis et important en Iran. Il a un rôle de transition entre un pouvoir qui reste conservateur dans sa globalité et une société iranienne qui a énormément évolué depuis 1979. C'est une société qui s'est urbanisée, qui est très très diplômée et éduquée. Et il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'aller de l'avant. Rouhani l'assume et il a même été élu sur cette plateforme de liberté individuelle sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'il est allé encore plus loin aujourd'hui en critiquant très très fort, hein, cette police des mœurs et ses interdictions par rapport aux réseaux sociaux. Il explique que la révolution va dans le mauvais sens si on ne respecte pas le peuple et si on ne résolut pas ses problèmes. Donc c'est une phrase très très forte qui remet en question le principe même de la direction de la révolution islamique aujourd'hui par rapport au mécontentement. Si jamais la situation ne s'améliore pas pour le peuple, tout comme c'était le cas à la fin du règne du Shah d'Iran, la question en gros qu'il posait, c'est est-ce que nous valons mieux?
Et lui, par rapport aux conservateurs donc, qui contrôlent de nombreuses institutions clés au pouvoir, Hassan Rouhani, est-ce qu'il peut aller encore plus loin?
Alors pour le moment, Rouhani a un pouvoir qui reste assez limité. C'est vrai que le service de renseignement en Iran et le pouvoir militaire restent très importants. Et ça a été l'une de ses luttes dès sa première élection, de faire en sorte que le pouvoir militaire n'interviennent pas dans les questions politiques, économiques et sociales du pays. Donc il continue cette lutte-là. C'est-à-dire que le mouvement social iranien, il est très puissant. Il faut absolument répondre à leurs attentes, car on a vu qu'il peut y avoir des grands mouvements sociaux en Iran, mais également par rapport à l'inflation et au chômage qui existent. Ce sont deux mouvements que Rouhani doit maîtriser, en tout cas répondre à leurs attentes, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de mécontentements sociaux dans le pays. Rouhani doit pouvoir tenir la promesse de son élection.
Milad Jokar, spécialiste de l'Iran, propos recueillis par Sarah Maquet. Au 9e jour de son nouveau mandat de Premier ministre, Serge Sarkissian est confronté à la détermination intacte de l'opposition. Il n'aura pas le loisir d'ailleurs d'échanger avec son meilleur adversaire, Nicole Pachinian. Nicole Pachinian qui accuse l'ex-président de confisquer le pouvoir. Il a pour autant salué Nicole Pachinian, le président actuel, venu tenter une médiation en pleine rue Guillaume Bonheur. Il est vrai que des milliers de partisans de l'opposition affluent en ce moment même vers la place de la République à Yerevan. Précision de Stéphane Siohan, notre correspondant dans la région.
Les manifestations ont commencé à Yerevan le 13 avril, après que le Parlement ait désigné comme Premier ministre l'ancien président Serge Sarkissian, un ancien militaire âgé de 63 ans. À la tête de l'Arménie depuis 2007, Sarkissian n'a visiblement pas l'intention de passer la main. En effet, il a achevé son deuxième mandat de président début avril, mais auparavant, il a pris le soin de faire modifier la constitution, transférant le pouvoir réel au Premier ministre. Résultat, deux semaines après la fin de sa présidence, comme par hasard, le Parlement le nomme chef du gouvernement. Cette manœuvre a ulcéré des dizaines de milliers d'Arméniens qui demandent un changement de génération à la tête du pays. En effet, Sarkissian fait partie de ces apparatchiks qui ont maintenu l'Arménie sous la coupe réglée d'oligarques, alors qu'un tiers de la population se débat dans la pauvreté. Le fait notoire, c'est que ces 9 derniers jours, c'est la jeunesse qui est descendue en masse dans la rue. Elle demande une modernisation radicale de la manière de gouverner. Le leader du mouvement, le député Nicole Pachinian, a clairement appelé à une révolution de velours en Arménie. Il ne montre aucune volonté de négocier avec Sarkissian. En bon leader post-soviétique, ce dernier temporise et appelle l'opposition à venir discuter, mais la police a arrêté samedi 84 personnes, dont des activistes, preuve que le pouvoir n'a pas l'intention de lâcher du lest.
En France, le débat à l'Assemblée nationale sur le projet de loi Asile et Immigration tire nourri des députés de gauche contre le placement en rétention des mineurs. L'article 16 du texte vise en effet à porter de 45 à 90 jours la durée maximale de rétention pour les étrangers en attente d'expulsion. Et autre dominante de ces débats définitivement houleux depuis 6 jours, le temps et le calendrier dédiés à ces mêmes débats, trop courts et trop proches des vacances. Le chef de file des députés Les Républicains, Christian Jacob, déplore, je cite, une opération de bricolage. Quelques mots de météo pour demain dimanche. Encore une belle journée chaude, ensoleillée, quelques nuages voilés en début de matinée le long de la frontière belge. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, à la technique Inès de Bruyne.